Après cette pause, Michel, le parc des expositions de Narbonne, qui existe depuis un certain temps, mais qui apparemment, je sais pas, changerait ses habitudes.
Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai été attiré par cette annonce plus récente dans la presse locale du prochain salon que va accueillir en fait le parc des expositions de Narbonne, à savoir le salon de l'apéro. Alors, je me suis arrêté 2 secondes sur l'info. J'ai dit, voyons voir le salon de l'apéro dans un parc des expositions. Et je me suis dit, tiens, voyons, on va quand même rappeler un certain nombre de choses quand même concernant ce genre d'équipement. Car je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Jean-Claude, il me semble que tu étais conseiller municipal à l'époque.
On s'intéressait déjà à la chose publique.
Quand les parcs d'exposition ont été créés, parce qu'il y a eu une vague, des parcs des expos dans les années 80, comme aujourd'hui, il y a une vague salle multimodale,
Arena. Ce qui est normal, d'ailleurs.
Chaque période a effectivement ses gros équipements structurants, et ça avait été, à Narbonne en tout cas aussi, présenté comme un gros équipement structurant. J'aime bien le terme, parce que quand on demande à un élu de définir ce qu'est un équipement structurant, fait un jour l'expérience Jean-Claude, souvent, ils se retrouvent dans l'incapacité d'y poser des mots clairs et précis.
Ça, excuse-moi Michel, ça c'est la faute aux technos. C'est un mot qui vient de la technocratie.
Oui, je ne l'ai jamais utilisé, mais bon, passons.
Toi peut-être.
C'est comme les axes majeurs. C'est le genre d'expression qui m'a toujours fait sourire. Les axes majeurs, oui.
Il y a le lac majeur, mais l'axe majeur.
C'est ça, oui. Et donc, le parc des expos de Narbonne, comme tous les autres, a été présenté comme un équipement dit structurant, avec une vocation en fait, première essentielle, accueillir des rencontres professionnelles, des congrès, des séminaires, des réunions, des manifestations commerciales.
Ce qu'il a fait.
Mais pour être aussi des vitrines importantes pour accroître le rayonnement du territoire en question. Et donc je continue pour y attirer des entreprises ou des entrepreneurs qui voudraient, fascinés par la qualité effectivement de cette vitrine présentée par les expos en question, venir s'y implanter ou créer leur entreprise. C'était ça effectivement la vocation première.
Mais l'apéro.
Mais je peux terminer. Alors justement l'apéro. Alors l'apéro dans ce contexte-là, tu imagines un peu un chef d'entreprise qui habite, je ne sais pas moi, dans la région parisienne ou dans le nord et qui, mais par un miracle dont je n'ose même imaginer effectivement qu'il puisse se produire un jour, apprend par je ne sais quel canal tout à fait improbable qu'à Narbonne, dans son parc des expositions d'une grande notoriété, était organisé un salon de l'apéro.
Ça va peut-être l'amuser, mais ça va pas le choquer.
Ça va l'amuser, mais quel est ce territoire où le parc des expos vend comme qualité première, performance qu'elle a. Laisse-moi terminer, Jean-Claude. Vend les beautés entrepreneuriales et comme facteur de compétitivité, un plateau d'huîtres ou de charcuterie, une bouteille de pastis, accompagnée parce que nécessairement ça va avec, d'une partie de pétanque d'une chaise longue.
Sauf que à l'international, quand on vante la culture française, ça c'est une grande partie, qu'on le veuille ou non, de la culture française. Regarde l'Ostriva et ses 110 fromages pour attirer notamment les Chinois.
Oui, sauf Jean-Claude, que quand la région Occitanie, elle a bien raison, se déplace à Las Vegas pour vendre son territoire, elle n'y amène pas effectivement le berger du coin ou le producteur de fromage de Haute-Corbière. Elle y envoie des entreprises dites de haute technologie pour essayer de faire valoir un territoire attractif de ce point de vue. Parce que je te signale quand même, mon cher Jean-Claude, que certes, je n'ai rien contre le charcutier du coin, ou le fabricant de boules de pétanque. Non, il n'y en a pas de boules de pétanque. Le pastis Paris n'est pas fabriqué non plus. Et je doute même fort que les chaises longues soient fabriquées aussi dans cette région. Mais peu importe. J'imagine mal qu'ils considèrent cela, comme ce genre d'environnement, ce climat, culturel, comme étant particulièrement favorable à l'amélioration de la compétitivité de son entreprise. Je ferme la parenthèse. Alors, c'est d'autant plus rigolo, que cette vitrine en question, elle va être précédée, je parle du salon qui sera présenté à cette vitrine, va être précédée d'autres salons tout aussi performant du point de vue de cette activité.
Oui, enfin, n'oublie pas la foire, hein, la foire de printemps quand même.
Ah oui, mais avant la foire du printemps, qui est un. Avant quand même cette foire de printemps, et en continuité de mon propos, juste avant le salon de l'apéro, on aura droit au salon du tatouage.
Ah bon. Une activité. Alors ça, c'est pas forcément la culture française par excellence.
Quand même, toi, c'était justement pour te faire apparaître le genre de contradiction que tu, devant laquelle tu voulais me placer à tort. Donc, et juste avant le salon du tatouage, tu ne devineras jamais, en fait, une exposition des dinosaures. Alors il faudra qu'on m'explique un jour, en fait, mon cher Jean-Claude, comment, en fait, l'addition d'une expo des dinosaures, suivie, en fait, d'un salon de tatouage et complétée par un salon de l'apéro, donne une image rayonnante, attractive, oui, de notre territoire, au point d'y faire venir un jour, peut-être, en fait, des entreprises de haute technologie, ou pas d'ailleurs, d'autres régions ou d'autres pays,
oui,
de cette planète.
Ouais, bon. Enfin, finalement, pour ce salon du dinosaure, le parc des expos deviendra Jurassic Park.
Je crains qu'effectivement il le devienne. En tout cas, bon, ce qu'il y a de certain, c'est que cette séduisante vitrine n'aura donc vécu qu'un temps, celui effectivement de sa conception dans un bureau de je ne sais quelle, en fait, administration, en fait, locale, en fait, et que l'image rayonnante et attractive de Narbonne et de son territoire n'a plus besoin de ce parc,
bon,
hélas.
Alors un mot sur, ça sera le sujet de transition pour accueillir Jean-Marie Fabre, l'Europe finance l'Aude, alors la PAC, la politique agricole commune, que certains parfois oublient, et l'Europe, c'est de bon ton aujourd'hui de taper dessus, alors rappel de certaines vérités,
oui,
Michel.
Parce que, voilà, c'est une chronique que je n'ai pas faite sur mon blog, mais que je tenais à faire ici, d'abord parce que nous avons un invité qui
pourra répondre à ça,
qui travaille dans un secteur qui reçoit beaucoup, en fait, de l'Europe, mais pas que, en fait, hein, et pas que, parce que on est à quelques semaines d'élections européennes dont apparemment qui ne suscitent pas d'intérêt, en fait, enthousiaste chez les électeurs.
Alors là, comme d'habitude.
Comme d'habitude. Alors que, en fait, en particulier dans ce département et dans cette ville, des crédits européens importants, ils sont débloqués pour des infrastructures ou du fonctionnement de la société. Donc, prenons simplement du côté du FEDER et du FEDER, alors ce sont des fonds, je précise quand même, pour les gens.
Oui,
qui
parce que
pas.
Tous ces sigles,
voilà,
on s'y perd. Hein.
FEDER, ce sont des fonds pour le développement régional, donc ce sont des fonds de l'Europe qui permettent de financer des équipements, bon, dits structurants.
Comme le parc des expos, pour les salons de l'apéro.
Voilà, par exemple, oui, je doute tout. J'imagine le fonctionnaire de Bruxelles, en fait, devant ce genre de dossier, en fait, et ce genre de salon.
Je suis sûr qu'il serait séduit.
Oui, pour venir à la plage, oui, effectivement. Mais bon, donc, prenons seulement le FEDER, donc, pour les équipements. Et le FSE, c'est un fonds spécial, en fait, qui est dédié, en fait, à la formation professionnelle et continue. Rien que sur Narbonne-Ville, je me serais simplement arrêté à Narbonne-Ville, hein. En 2019, sur le programme qui couvre 2014-2020, si j'ai bonne mémoire, rien que sur Narbonne, bon, c'est l'équivalent de 11 millions d'euros qui seront tout simplement, en fait, versés par l'Union européenne aux propriétaires, aux maîtres d'ouvrage des opérations en question. Principalement le musée Narbovia qui a été construit et qui est géré par la région et qui a touché 6 millions d'euros, en fait. C'est pas rien, hein. Derrière, c'est une petite surprise d'ailleurs, le Conservatoire du Littoral, sur des projets intéressants, le littoral audois, en fait, qui a touché 1,4 million. Domicia, en fait, Domicia Habitat, ça, c'est une curiosité que...
Les HLM,
qui est la filiale de l'Aglo, en fait, hein, pour la limite, qui, au titre de la rénovation énergétique de ces bâtiments, a touché 1,2 million, en fait, etc. Et puis, bon, quelques petites subventions aux pépinières, en fait, les boutiques de gestion du coin qui ont bien besoin, effectivement, de ces sous pour 78 000 euros. Donc, au total, 11 millions d'euros versés par l'Europe. Dans le secteur de l'agriculture qui nous intéresse, alors, du coup, puisque nous avons notre, il faut quand même savoir que sur un chiffre d'affaires de, si j'ai bonne mémoire, 776, enfin, dans ces eaux-là, quoi, hein, dont 776 millions d'euros, l'Europe verse 85 millions d'euros. C'est-à-dire que nous avons affaire à un secteur, en fait, tout confondu, hein, toute activité agricole, hein, viticole, etc., une agriculture au sens global du terme, dont qui dépend pour 11% de son chiffre d'affaires, hein, de subventions communautaires. C'est énorme. Il n'y a pas un autre secteur, en fait, économique, fait, en France, qui bénéficie d'un tel transfert de fonds venant de l'Europe. Alors, ce qu'il faut savoir, quand même, hein, c'est que ces transferts de fonds, compte tenu des financements apportés par les différents États européens, en fait, au budget de l'Europe, hein, les trois pays les plus contributeurs, c'est l'Allemagne, la France et, ce que peu de gens savent, l'Angleterre, qui est la plus grosse contributrice avant la France. Mais ça veut dire tout simplement que dans ce département de l'Aude, les agriculteurs reçoivent de la part du contribuable allemand 48% effectivement de leurs ressources faites en termes de subventions communautaires.
Bon, ben voilà un chiffre.
C'est énorme. Tout ça pour dire, en fait, voyez, l'Europe, ça sert à quelque chose. Et contrairement à ce que vous pouvez imaginer, le plus gros contributeur au financement, en fait, de la viticulture audoise, ce n'est pas la France. C'est l'Allemagne.
Oui, c'est le pays le plus peuplé et le plus riche.
L'harmonie, ça ne veut pas forcément que le contribuable allemand paye effectivement les agriculteurs.
Il est bon de le rappeler et on marque une deuxième pause après laquelle, je le rappelle aussi, nous recevrons Jean-Marie Fabre.